Au lendemain de l'Halloween, 8 choses à savoir sur le sucre, Isabelle Falardeau.
Oui, exactement. C'est le titre de l'article de Catherine Anfield qui est paru dans la presse il y a quelques jours. Et pour l'aider à répondre à la question de pourquoi le sucre est si addictif, elle a fait appel à Stéphanie Fulton, qui est professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal, et à Michel Lucas, qui est professeur, lui, au département de médecine sociale et préventive à l'Université Laval. Alors, le premier fait, ou enfin, première information sur le sucre, il est essentiel. Les sucres et le sirop de glucose qu'on trouve dans les bonbons d'Halloween, évidemment, ils sont loin de ceux qu'on retrouve dans une pomme ou dans le lait maternel, mais à la base, on nous rappelle que le sucre est partout dans la nature et est essentiel. En termes d'évolution, notre cerveau a été construit pour chercher la nourriture et assurer notre survie, et le cerveau notamment carbure au glucose. Donc, c'est un besoin pour le corps et plusieurs aspects de notre biologie sont là pour satisfaire ce besoin. Donc, c'est essentiel. Deuxièmement, on nous parle de dopamine. À peine déposé dans la bouche, le sucre cible des récepteurs qui sont situés sur la langue et dans le haut de la bouche, et ce signal entraîne la libération de dopamine dans le cerveau. Et ce serait vraiment cette dopamine-là qui nous motive à aller chercher le sucre. Et la libération de dopamine ne s'arrête pas dans la bouche, elle se poursuit pendant la digestion, puisqu'on trouve les mêmes récepteurs et les mêmes transporteurs dans l'appareil digestif. Et évidemment, c'est pas seulement biologique, hein, le comportement est encore renforcé par les associations qu'on fait avec le sucre. Les couleurs des emballages des produits, mais aussi les gens avec qui on est, le moment de la journée, les fériés. Hein, pour faire une petite parenthèse, moi, je mange pratiquement jamais de dessert, mais dans le temps des fêtes, je me bourre de gâteaux froids, de tartelettes au raisin et de petits fours de ma tante Alec. Ce sont les 3 desserts traditionnels de Noël. C'était toujours là quand on allait fêter chez ma grand-mère. C'était elle qui les préparait. Et maintenant, ben, on se charge chacun de préparer un dessert, mais ça serait pas Noël sans les petits fours de ma tante Alec.
Juste d'y penser, l'hormone du plaisir se met en marche.
Vraiment, exactement. Et troisièmement, donc, le marché inondé. Donc, bien sûr, ces traditions ou rituels, comme les petits fours de ma tante Alec, mais ils sont aussi grandement encouragés par l'industrie alimentaire. C'est ce qui fait dire à Michel Lucas que c'est pas tant nous qui cherchons à ce point à consommer du sucre, mais plutôt les produits sucrés qui viennent nous chercher. J'ai vraiment beaucoup aimé cette image-là.
C'est pas de notre faute, on n'a rien à voir là-dedans.
Ben non, c'est ça exactement, mais l'Halloween est perpétuée par les grosses entreprises, hein, les grosses entreprises alimentaires de ce monde qui inondent le marché de produits sucrés, de boissons caloriques, de céréales raffinées. Elles rendent ces choses-là disponibles et elles exploitent cette vulnérabilité biologique dont on vient de parler. Quatrièmement, l'habitude. Vous vous souvenez peut-être d'une chronique en juin dernier où je vous parlais du fameux point de félicité, c'est-à-dire la quantité optimale de sel, de sucre ou de gras dans un produit alimentaire pour en maximiser le goût. Dans son article ici, Catherine Anfield parle plutôt du point d'extase. C'est tout simplement une autre traduction de l'anglais « bliss point ». Et donc, les industries utilisent ça pour concevoir leurs produits et les consommateurs ont intégré ces produits industriels dans leur alimentation. Et apparemment, quand une habitude se crée, ils n'ont pas tendance à en changer. Il y a des chercheurs britanniques qui ont suivi des consommateurs pendant 5 ans et ils se sont aperçus qu'un consommateur habitué à un produit qui le satisfait n'a tout simplement pas envie d'aller explorer ailleurs. Et si jamais vous comprenez bien l'anglais et que vous avez envie d'aller lire l'étude britannique, c'est sur le site nature.com. Et le titre de l'étude, Coherency Maximizing Exploration in the Supermarket. Alors, vous copiez ça dans votre petit navigateur. Moi, je vais peut-être aller lire ça, ça me semble vraiment intéressant. Ensuite, cinquièmement, addictif. Hein, là, c'est là qu'on est vraiment dans le mot qui est au centre de l'article. Le sucre est-il addictif? La question fait débat en neurosciences depuis la publication d'études qui montraient que des rongeurs exposés à de la cocaïne et à du sucre avaient tendance à choisir le sucre.
Ah oui?
Premier. Oui.
C'est puissant, c'est une drogue.
C'est vraiment une image très forte. Mais par contre, la plupart des scientifiques ne vont pas considérer le sucre comme une substance addictive parce qu'on en a besoin. Donc, c'est un petit peu normal qu'on ait choisir le sucre puisque notre corps en a vraiment besoin, donc il nous dit d'aller le chercher. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu difficile de démêler l'addiction du besoin. Mm-hmm. N'empêche que le sucre affecte des systèmes et des circuits semblables à ceux qui sont affectés par l'alcool ou les drogues, même si ce n'est pas avec la même ampleur. Et des gens qui arrêtent de manger du sucre ajouté peuvent se sentir stressés et même frissonner un peu, apparemment, mais ça serait surtout un effet psychologique. Ensuite, sixièmement, stress et douleur. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. On va voir si vous allez vous coucher aussi moins niaiseux que moi. Plusieurs études ont montré que le stress augmente la consommation d'articles riches en sucre et en gras. Ça ne va pas vous étonner. Donc, ce serait possible que ces aliments atténuent la réponse de stress, mais... Le sucre peut même avoir un effet analgésique.
Ah oui.
En 2016, il y a eu une revue Cochrane. Cochrane, pour ceux qui connaissent pas le groupe Cochrane, c'est un groupe de recherche à but non lucratif. Et il fait des revues systématiques des preuves empiriques sur une question de recherche ou encore il fait des méta-analyses, donc une revue des analyses, des études qui existent déjà sur un sujet. Donc, il y a une revue Cochrane qui a conclu que le saccharose, donc le sucre de table, réduit la douleur chez les nouveau-nés qui subissent des ponctions ou des injections. On connaît pas encore très bien les mécanismes, mais on pense qu'on synthétise de l'endorphine suite à la consommation de sucre et donc les enfants atteignent un niveau d'extase. C'est vraiment intéressant. Donc, peut-être si vous avez mal quelque part, c'est peut-être pour ça qu'on aimait tellement les petites aspirines pour bébé. Je sais pas si vous connaissez.
Oui, les petites roses, là.
Oui, on les croquait. Je m'étais emparée d'une bouteille quand j'étais petite. Ma mère était catastrophée.
Mais même vieille, j'en achète à l'occasion. Ça me rappelle des souvenirs. Puis, ça fait pas de mal. Ben, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour...
Il ne faut pas en prendre trop.
Non, il ne faut pas exagérer.
La dose est dans la dose qui fait le poison, comme on dit.
Tout à fait.
Septièmement, l'impact des gènes. On n'est pas tous égaux devant le pouvoir d'attraction du sucre. On sait aujourd'hui que la génétique a un rôle à jouer. Il y a une petite partie de la population qui va avoir juste un gène qui augmente l'appétit, mais en général, la plupart des gens ont plusieurs gènes qui les rendent plus susceptibles de surconsommer du sucre. Et selon les données récentes, ces gènes sont associés à l'impulsivité et au manque de capacité à se contrôler. Donc, c'est peut-être pas effectivement complètement de notre faute là, si on peut pas s'empêcher de manger du sucre. Et finalement, le huitième point, même sans appétit, donc même après avoir mangé un repas complet et rassasiant, l'envie de piger dans le sac d'Halloween de fiston peut nous prendre. On a probablement tous vécu l'expérience de se sentir bien plein après un repas, mais 5 minutes plus tard, on ouvre quand même la carte des desserts pour chercher s'il y a pas de la petite crème brûlée ou la porte du frigo si on est à la maison pour trouver la crème glacée. Donc, ça s'observe également chez les souris en laboratoire. Elles surconsomment de l'eau sucrée même après avoir mangé à leur faim. Et on conclut en disant qu'on aurait donc plusieurs systèmes de satiété pour différents goûts. Donc, on a comblé un goût, mais on a encore besoin de combler le goût de sucre si on n'en a pas eu assez.
Oui, souvent, on se fait poser la question, est-ce que vous allez finir avec un peu de sucré?
Oui.
Moi, je suis plus salée que sucrée. Et toi, Isabelle? Isabelle?
Moi, c'est vraiment la même chose, effectivement. Ouais. Je suis beaucoup plus salée que sucrée.
Okay. Et Daniel?
Ah, les deux.
Les deux? Mathieu?
Autant sucré. J'ai toujours de la place pour de la crème glacée, malheureusement.
Alors, on salue toutes les bébites à sucre et on est quand même solidaires. Là. Mais la modération a bien meilleur goût. Ça, on parlait de ça pour l'alcool, mais pour le sucre aussi, c'est bon. À tantôt.